L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Mâchurée et enterrée, la décision est annoncée hier par l'UPAC, donc 8 ans d'enquête et à 2 reprises, nous dit-on ce matin, les enquêteurs ont soumis leur dossier, leurs preuves. Ça a été évalué par le DPCP, les procureurs. Même un juge à la retraite de la Cour d'appel a regardé ça. Dans un premier temps, il y a un an, ils ont dit « ben, vous n'avez pas le matériel pour aller devant le tribunal ». L'UPAC a insisté, ils ont, j'imagine, garni un peu plus le dossier et on est arrivé à la même conclusion. Ce qui fait qu'après 8 ans d'enquête, aucune accusation ne sera portée contre Marc Bibeau, contre Jean Charest, même si on a interrogé 300 témoins au cours de cette enquête. Et il y a longtemps que mon ami Luc Dionne me dit, quand je dis longtemps, là, ça fait plusieurs années que, pour lui, c'est clair, c'est une enquête qui n'aboutira à rien. Luc est avec nous ce matin, bonjour.
Allô?
Qu'est-ce qui te fait dire depuis des années que ça va finir en queue de poisson?
Parce qu'il ne faut pas connaître le monde politique pour... dès le départ, la prémisse de cette enquête-là, elle est fausse. Et on établit des choses, on part sur une prémisse, laquelle on ne sait pas trop, puis là, on commence à interroger du monde, puis on s'aperçoit que ce qu'on reçoit comme information, c'est tout ça basé sur la commission Charbonneau, sur le financement des partis politiques, là, c'était le gros party, puis bon. Puis là, on se met à interroger du monde, puis on se rend compte assez rapidement qu'il n'y a rien là. En bout de ligne, là, je lisais des articles ce matin, j'entendais des gens parler. Tu sais, le Parti libéral, c'est pas eux autres qui ont inventé ça. Quand René Lévesque a voté la loi sur le financement des partis politiques, le lendemain, on savait comment la déjouer. Non, mais que ce soit le Parti québécois, que ce soit le Parti libéral, il n'y a personne qui frappe à une firme d'ingénieurs en disant à la firme d'ingénieurs, voulez-vous faire des dons à un parti politique X, Y, Z, ça veut dire n'importe quel parti, là, tu sais. Tu ne demandes pas à la firme d'ingénieurs, tu dis au gars, vous êtes 30 ingénieurs, 30 associés, demande-nous à tes associés. C'est le même, Paul, on s'en parlait dans les années, je me souviens, j'allais le voir dans les années 90, on parlait de ça. À l'époque où tu étais à la radio sur à Verdun, en quelque part, ça fait longtemps qu'on parle de ça, là. Fait que si ta prémisse de départ, c'est ça, ben c'est faussé, là. Je veux dire, contourner la loi comme ça, c'est une chose, là. Mais il n'y a rien de criminel là-dedans. Tu peux dire qu'éthiquement, ça se fait pas. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais déjà, au départ, et toute la transmission, tu sais, il faut connaître un peu l'histoire de ça. Moi, vous raconter ça ce matin, moi, là. Tu m'as parti, toi, là,
Paul? Vas-y.
Ça allait bien avant ce matin, là. Il y a quelqu'un au DPCP, on sait c'est qui, mais on peut pas le dire, fait qu'on le dira pas. Il y a quelqu'un, au DPCP, il y a quelqu'un à l'UPAC un jour qui s'est tanné, puis qui a pris un disque dur, puis qui a été porté ça à un journaliste du Journal de Montréal. Félix Séguin, on le dira pas son nom, c'est Félix. Félix, il a fait tout ce qu'un bon journaliste fait, c'est-à-dire qu'il a commencé à fouiller ce qu'il y avait là-dedans. Puis là, il y a des articles qui sont sortis dans le Journal de Montréal. Puis là, ils ont fait plein de pages avec ça. Puis ça a créé des scandales partout. Puis là, c'est un disque dur, Paul, qui part de l'UPAC, là. Puis là, l'UPAC, pas longtemps après, quand tout ça a été révélé dans les journaux, là, il y a quelqu'un à l'UPAC qui a commencé à crier en disant « Il y a du coulage, il y a des gens qui coulent l'information, on va trouver le bandit qui a fait ça. » Après ça, ils ont sorti un livre sur Jean Charest qui s'appelle « PLQ Incorporé ». Ça, ça vient tout du même petit hard disk, là, où on a pris des résumés d'enquête, des résumés d'interrogatoires qu'on avait fait avec des gens, là. Puis, 8 ans plus tard, on nous annonce que, finalement, il n'y avait rien là. En bout de ligne, il n'y a rien là. Non, parce qu'il n'y a jamais eu rien. Tu sais, je te l'ai dit, je ne sais pas combien de fois.
Non, je le sais. Mais tu sais, à l'époque, même le Parti québécois, la grande réforme, là, pour chasser les entreprises du financement politique, en 1976, le plafond était à 3 000. T'sais, pas grand monde en 1976, là, comme bon citoyen, aurait pu donner 3 000 piastres à un parti politique. Fait que c'est sûr que ça ouvrait la porte à un paquet d'affaires, en partant.
Ben, c'est sûr, je veux dire, puis c'était pas compliqué. Tu dis au gars, regarde, fais un don personnel de 3 000, moi, t'as le remboursé un compte de dépenses. Mais ça, là, Paul, ça prend pas une commission, puis ça prend pas 10 ans d'enquête pour savoir ça, là. N'importe qui, je le sais, écoute bien, là. J'ai fait de la politique, j'avais 24 ans, là. J'étais pas le beau goût plus dégelé de la boîte, comme on dit, là. J'étais pas le crayon le plus aiguisé, là. Puis on a compris ça tout de suite, là. Fait qu'il y avait, en soi, il y avait même pas de scandale, là. C'est comme ça que ça fonctionnait, tu sais. J'ai été des années à dire, si vous voulez éliminer ça. Puis, et même pour les députés, là, je te le dis, Paul, là, tu peux pas savoir comment les députés avaient tellement peur du mois d'octobre, parce que le mois d'octobre, c'était le mois où on faisait où on partait en campagne de financement. Là, fallait que tu appelles tes amis. Tu veux-tu me donner 3 000? Tu veux-tu me donner ici? Écoute, je te le dis, là, la journée où ils ont décidé que c'était un financement public, que c'est les gens qui payaient. Il y a des députés, là, ils pesaient 100 000 livres de moins. Parce que c'était fatigant, demandez-le, qu'est-ce que tu veux.
OK, mais je te retourne ça à l'envers, là. C'est quoi l'intérêt des firmes de génie, des firmes de construction, de contribuer des sommes importantes, là, parce qu'on venait cogner à la porte en disant, toi, c'est 100 000, puis on a besoin de 200 000, puis trouve-moi 75 000.
Okay, ça a été un système qui a été poussé à sa limite. T'sais, moi, là, écoute, quand j'ai su ça, là, qu'on demandait à certains ministres, là, le plancher, là, c'était à 100 000. Fait que tu ramasses 100 000 piastres de contribution, là tu te dis, attends, mais là, on est devenu fou, là, ils ont perdu le contrôle, là. Ça peut pas fonctionner comme ça, t'sais. Ça, c'est un système qui est poussé à sa limite, t'sais. Mais pourquoi tu iras pas voir la firme d'ingénieurs? Quand le gouvernement du Québec donne des millions, puis des millions, puis des millions en contrat, t'es pas plus fou qu'un autre, tu dis, bon, on va aller voir, on va leur demander. Puis c'est le même processus qui se met en branle, là, puis ça changera pas, là.
Non, mais c'est parce que... Mais Luc, toi, tu connais Laval par cœur. Laval, là, t'avais, comme on dit, un retour sur ton pourboire à Gilles Vaillancourt, là. Tu savais que t'avais un contrat, tu savais que le partage se faisait. Même à Montréal, il y avait cette espèce de... Mais pourquoi, pour obtenir un contrat de Québec, ministère des Transports, ou peu importe, je vais donner un parti s'il n'y a pas de lien entre mon don et le contrat?
Tu penses que t'es imbécile, puis tu penses que ça marche comme ça. tu penses que c'est le monde politique qui vont, excuse l'anglicisme ce matin, là, coller à shot d'un cabinet en disant à un ministère, toi, je vais te conter une petite anecdote. Okay. Un jour, j'étais avec un gros développeur à Laval, ça fait longtemps, ça, là. J'étais à Laval dans un restaurant avec un gros développeur. Puis on commence à parler de politique, puis de dons aux partis politiques, puis c'était juste, Gilles Vaillancourt s'en venait au pouvoir, tu sais. Et le gars m'a dit, pourquoi je vais commencer à m'obstiner avec des politiciens, puis à donner de l'argent aux politiciens quand le gars... Puis le gars, il était assis dans le restaurant. Il dit, quand le gars qui donne les contrats, il est assis là, là. Il dit, lui, c'est pas un élu, là. Lui, c'est un administrateur. Puis c'est lui qui donne des contrats, là. Il dit, lui, je vais en prendre soin. Le reste, je m'en fous, là. Et c'est comme ça, là. C'est la même chose au provincial, là. Tu sais, c'est dans toutes les directions régionales. La gros de l'affaire, c'est là qu'il se passe, là. Un politicien. Tu penses qu'un député qui est assis à l'Assemblée nationale va décider à qui on octroie le contrat? Puis tu sais, je te dis pas qu'il n'y a pas des petites passe-passe à gauche, à droite, puis pour essayer de favoriser ci, puis ça. Écoute, j'ai fait une série qui s'appelle Le Bunker. Il y a quelqu'un qui se promenait avec un bout d'autoroute, il voulait avoir un bout d'autoroute en échange de financement, puis on va planter de la clôture pendant 7 kilomètres, puis des lampadaires, puis du gazon, puis tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne, là. Mais là, on s'éloigne de Machuré, là. Mais tu sais, si on vient à Machuré, c'est tout ça, là. C'est tout le financement des partis politiques. Mais pourquoi cette enquête-là a traîné pendant 8 ans? Écoute, Paul, on va dire les vraies affaires, là. Ça se peut-tu que ce soit quelque chose de complètement inutile, l'UPAC? Ça se peut-tu que, écoute, là, quand c'est rendu que tu formes un comité de procureurs puis que tu nommes un ancien juge pour évaluer une preuve, t'as pas d'affaires, là. Ferme ça. Et économise 30 millions par année. Quand j'entends la ministre dire, on va leur donner les moyens. C'est pas des moyens qu'ils ont pas. C'est pas les moyens qu'ils ont pas. C'est les compétences. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils font n'importe quoi. Le gars qui est nommé là, là, qui ont nommé à la tête de l'UPAC, il n'y a pas d'affaires là. Il n'y a pas de compétences, Paul, pour être là. Il voulait avoir des gros jobs à Sûreté du Québec. Il n'a jamais eu ses nominations parce qu'il n'avait pas les compétences. Pire que ça, quand la CAQ l'a nommé là, ils ont reconnu certaines compétences qu'il n'y avait pas. Ils ont reconnu à cause des années, là, je ne peux pas rentrer dans les technicalités, puis tout ça. Encore pire que ça, le projet de loi qui faisait de l'UPAC un corps de police, reconnu comme un corps de police indépendant, la CAQ a voté contre. Qu'est-ce qu'ils font avec l'UPAC encore aujourd'hui? Puis là, on vient nous dire, on va leur donner des moyens pour... Ils n'ont pas les compétences pour faire ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Attends. Quand tu dis ils n'ont pas les compétences, est-ce que, parce que c'est un crime économique de col blanc, c'est plus compliqué, les preuves... Quand le commissaire sort en disant ça prend des réformes parce que, tu sais, dans le cas... Bon, on va faire attention à ce qu'on dit, là. Dans le cas de Machuré... Il y a eu une bataille qui finissait plus d'experts comptables, d'avocats, est allé devant à peu près tous les tribunaux qu'il y a au Canada pour essayer de... Ce qui fait que les délais... Ce que je veux dire par là, c'est-tu parce qu'ils sont pas compétents ou tout simplement parce que c'est difficile de combattre ce genre de crime?
Ben, un, c'est des crimes qui sont difficiles à combattre, mais deux, il y a toute la question de la compétence là-dedans, là. Paul, un meurtre, c'est pas compliqué, là. Il y a quelqu'un qui est couché à terre. Il y a un cadavre, il y a des pas, il y a des traces, il y a des empreintes, il y a une arme. Tu sais ce que tu fais. Quand tu rentres dans ce genre d'affaires-là, là, tu rentres dans... En fait, c'est l'expérience que tu peux acquérir en tant qu'organisation qui fait en sorte que, oups, tu peux reconnaître qu'il y a là. Mais même si t'es pas capable, même si tu sais ça, si t'es pas capable de prouver l'intention criminelle puis le geste criminel, je veux dire, on réinvente pas ça en police, là. Le directeur de l'UPAC vient dire, faudrait changer quelques articles du code criminel pour nous permettre d'être plus efficaces. Ben, voyons donc, toi, là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, tu sais? Si t'es pas capable d'accuser quelqu'un, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves. S'il n'y a pas de preuves, t'as pas accusé du monde. Si tu continues à faire traîner ça, si la ministre se lève en chambre, là, avec le livre PLQ incorporé, puis qu'elle parle des libéraux là-dedans, en sachant très bien qu'en décembre 2020, il y avait déjà une première étude qui avait sorti, en sachant très bien qu'il n'y aurait probablement jamais d'accusation là-dedans, tu fais de la petite politique avec ça. Puis aujourd'hui, Machuré, ça n'a été que ça, que faire de la petite politique. Moi, là, qu'on juge le gouvernement de Jean Charest sur le scandale des commandites, sur tout ce qui s'est passé, aucun problème avec ça, mais que tu instrumentalises des enquêtes policières comme ça, qui vont nulle part... Paul, on va se dire... Faut faire attention à ce qu'on dit.
Je
tombe en vacances, puis ça me tente pas de me ramasser avec un outrage au tribunal, mais on sait exactement qui a fait quoi là-dedans.
Mais là, j'ai une dernière question, parce que le temps file. Toi qui avais prévu que Machuré finirait donc à la poubelle, parle-moi de l'enquête sur les fuites, le projet Sermat. D'après toi, ça va finir comment?
Dans un documentaire. Parce que c'est pas vrai que ça va à la poubelle. Ça, là, je me ferai pas d'amis un matin.
C'est pas notre objectif non plus en soi. Là.
Non, je me ferai pas d'amis, je veux dire. Non, c'est pas notre objectif. Là, mais faut quand même que je fasse attention quand je me promène sur l'autoroute pour pas arrêter ou n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que on la connaît, là. La vérité, là, tout le monde attend le décaviardage du jugement Perrault. Tout le monde attend ça, là, quelque part. Ça va arriver. Il y a tellement de parties impliquées là-dedans, là. On la connaît, la vérité. On sait qui a fait quoi et que des gens retiennent ça et que ça tombe pas dans l'opinion publique. Ça, Paul, ça se peut pas. Ça, là, pour moi, là, c'est rendu trop loin. À un moment donné, s'il y a des gens qui ont posé des gestes répréhensibles, il faut que ces gens-là assument ce qu'ils ont fait, puis qu'ils se retrouvent devant les tribunaux, puis qu'ils répondent devant les tribunaux des gestes qu'ils ont posés. Voilà.
Merci, monsieur.
Ça me fait du bien, matin.
Oui, je vois ça. C'est bien intéressant. Merci, Luc.
Il en reste 8. C'est fini.
OK. Seulement 8?
8 épisodes à faire.
Oui, non, j'ai compris. C'est OK. Défonce-toi pour les 8.
Oui, on essaye.
Salut.
Une fois. Bye.
Luc Dion, je veux juste dire, il y a peut-être des gens qui disent, on n'a pas compris ce qu'il veut dire, parce qu'il faut être prudent, voyez-vous. Des dossiers d'enquête, puis des procédures, puis des poursuites. On est dans un univers où, disons, il y en a un peu autour de nous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout dire ce qu'on pense au moment présent. Alors, on fait bien attention.
ce qui ne nous empêche pas quand même de porter un regard critique sur certains organismes, sur certaines décisions.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Le mois de mars est le mois de la justice au Québec. On devrait peut-être même ajouter que ça devrait devenir le mois d'accès à la justice, parce que c'est un enjeu important de société. Et pour une 7e année consécutive, il y a Jury Pop qui offre des cliniques tous les mercredis du mois de mars, entre midi et 18 heures. Et en voyant ça, je me suis dit, mais qui appelle? Quelles sont les questions qu'on pose? Puis de façon plus globale, comment est-ce qu'on peut regarder l'accès à la justice? Parce que ça coûte cher. Il y a eu le documentaire assez extraordinaire de Pierre Craig qui a montré comment des gens pouvaient s'embarquer dans des dépenses et que ça pouvait aussi donc décourager beaucoup de citoyens de revendiquer leurs droits, même quand leur cause est juste. Maître Sophie Gagnon, la directrice générale de Jury Pop, est avec nous. Maître Gagnon, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Première question, je comprends que ce sont des avocats, des notaires donc qui reçoivent les appels. Qui appelle? Quelles sont les questions qu'on vous pose?
C'est super varié. Puis pour la petite histoire, ces cliniques-là, dans l'ancien temps, là, pré-COVID, on faisait ça dans le métro de Montréal. Fait que vraiment, les gens arrivaient avec des sacs de documents pour nous parler de leur dossier. Puis là, c'est intéressant de voir les questions que les gens nous posent au téléphone. Moi, l'an dernier, j'en fais toujours là, des cliniques comme ça, j'adore ça. Il y a un couple qui venait d'acheter une maison, puis qui se sont rendus compte que leur voisin du bas faisait du bruit absolument ridicule à toutes les heures du jour et de la nuit. Puis ils m'ont dit, ben, est-ce que ça peut constituer un vice caché? Après ça, étonnamment et malheureusement, là, c'est arrivé à quelques reprises que des gens nous ont appelés parce que dans leur entourage, il y avait un proche vieillissant qui se faisait abuser financièrement par quelqu'un de la famille. Fait qu'une personne âgée, là, puis de l'argent sortait de son compte, puis il nous disait, ben, comment est-ce que je peux faire valoir les droits de ma tante aînée ou de ma grand-mère? Donc, vraiment, là, une super grande variété de sujets pour lesquels les gens nous appellent dans ces cliniques-là.
Puis c'est des gens qui se posent une question ou des gens qui n'ont pas les moyens de prendre un recours, par exemple, d'aller voir un avocat puis de se faire conseiller.
Les gens qui nous appellent, c'est souvent des gens qui n'auront pas les sous pour payer, pour comprendre leurs droits. Puis c'est vraiment ça notre mission chez Jury Pop, c'est d'offrir des services qui sont gratuits ou qui sont abordables aux personnes qui tombent entre les mailles de notre filet social parce qu'ils ne sont pas considérés comme assez pauvres pour l'aide juridique, mais qui n'ont pas non plus des milliers de dollars à dépenser là, pour aller voir un notaire ou un avocat. Donc c'est pour ça que pendant le mois de la justice, à tous les mercredis, les gens peuvent appeler chez Jury Pop puis parler à un juriste gratuitement pour comprendre leurs droits. Doit y être aiguillé pour savoir quoi faire par la suite.
Quand on travaille à Montréal, puis c'est peut-être vrai ailleurs aussi, je le sais moins, là, mais toute la question de l'immigration, de l'exploitation des immigrants, par exemple, en matière de travail, en matière ou de discrimination, en matière de logement, ça doit sortir ça aussi?
Ah, absolument ça. M. Arcand, vous avez raison. Des questions en matière de logement, on en reçoit beaucoup pendant ces cliniques-là. Donc, tu sais, des propriétaires qui font des choses comme exiger un dépôt de 2 mois de loyer pour conclure un bail, alors que j'en profite pour le dire, on n'a pas le droit de demander ça au Québec, ou encore qui refusent de conclure un bail si des gens ont des jeunes enfants ou s'ils ne parlent pas français. C'est toutes des choses, là, vous faites bien de le mentionner, c'est de la discrimination. Puis ce qui est intéressant dans nos cliniques, c'est que nous, on connaît c'est quoi les ressources qui sont gratuites, qui peuvent permettre aux gens de faire valoir leurs droits. Donc, par exemple, si on se fait refuser un logement parce que notre peau n'est pas de la bonne couleur, ben, on a le droit de porter plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Puis, bonne nouvelle, c'est gratuit, ça. Fait que je vous dirais qu'au Québec, on a quand même pas mal de ressources qui peuvent permettre aux gens de faire valoir leurs droits gratuitement, mais qui sont parfois méconnues. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à nous appeler pour faire un petit peu du débroussaillage, puis pour que les notaires et les avocats de Jury Pop les dirigent vers ces ressources-là.
Je vous donne un autre exemple qui, en tout cas, je trouve, revient assez souvent, puis on est encore dans le domaine de l'immobilier, là, des gens qui se retrouvent avec des hypothèques légales parce que l'entrepreneur n'a pas payé les sous-contractants. Et je ne sais plus combien de cas j'ai reçus, là, comme, en fait, pas, je veux dire, de courriels de gens là, qui se retrouvent avec une maison qu'ils ont payée telle que prévu et avec 80 000, 100 000 $ à payer en plus parce qu'il y a une hypothèque. Ils arrivent chez eux, puis la porte, il y a un avis d'un huissier. Il y a quelque chose là-dedans. Quelles sont les protections? Qu'est-ce que les gens devraient faire pour éviter de se ramasser comme ça?
Ah, ça, vous avez raison que c'est pas évident, puis des recours comme ça, ben les propriétaires doivent se retourner eux aussi contre l'entrepreneur. Puis c'est pas toujours évident parce qu'en construction, il y a des compagnies qui peuvent être ouvertes, qui peuvent être fermées assez rapidement. Donc vous voyez, ça c'est le genre de situation que des consultations de 15 minutes, on va juste pouvoir débroussailler là, mais on pourra pas accompagner la personne dans le fin fond de son dossier. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la référer. On en connaît, nous, chez Juripop, des bureaux d'avocats, d'avocates qui pratiquent le droit avec des honoraires un peu plus modestes, puis on va pouvoir référer la personne vers des avocats, des avocates spécialisés là, qui pourraient l'aider dans des situations comme ça.
Je voudrais vous poser des questions de façon plus globale sur l'accès à la justice. Je parlais du documentaire de Pierre Craig. Vous étiez interviewé dans ce documentaire-là. Et puis là, je ne veux pas vous mettre sur, comme on dit, un hot seat, là, mais je m'interroge beaucoup sur le rôle du barreau de représenter les intérêts publics quand vient le moment de discuter de l'accès à la justice. Je me demande si ça ne sent pas les conflits d'intérêts.
Bien, les ordres professionnels au Québec, puis le barreau, c'est un ordre professionnel, les ordres professionnels, leur mission, c'est de protéger le public.
Ça, je le sais, mais est-ce qu'ils le font?
Ce qu'ils font principalement, c'est de leurs plus grandes activités, c'est le syndic, là. Fait que ça, c'est quand les avocats font des choses pas correctes. Après ça, en matière d'accès à la justice, nous, le barreau, c'est un de nos partenaires financiers, nous donne des sous pour qu'on rende des services gratuitement à la population. Mais il y a des choses que les autres professionnels pourraient faire de plus. Un sujet qui est discuté dans le documentaire de Pierre Craig, puis qui est une bataille pour Juripop depuis longtemps, c'est le fait complètement absurde là, qu'au Québec, les avocats, on n'a pas le droit de pratiquer notre métier au sein d'un organisme à but non lucratif. Donc, moi, comme avocate, si je veux pratiquer comme avocate, il faut que je le fasse dans une structure à but lucratif. Donc, Juripop, par exemple, c'est absurde, là, mais on n'a pas eu le choix, on est au BNL, alors on n'a pas eu le choix de mettre en place une société par action où moi, j'ai le droit de donner des conseils juridiques. Puis le barreau, la Chambre des notaires, on peuvent faire des représentations auprès du ministère de la Justice pour que les choses changent.
Mais Maître Gagnon, c'est pas cette pratique-là là, qui vous empêche, à travers un organisme à but non lucratif, à donner des conseils. C'est pas dans l'intérêt du public, c'est pas dans l'intérêt des citoyens, ça. C'est dans l'intérêt des avocats, des notaires. Donc, le barreau qui est mon défenseur fait pas sa job. Là, je le sais, je vous place sur une mauvaise situation parce qu'il y a du financement qui vient du barreau, mais vous comprenez comment le citoyen voit ça?
Ouais, ben pour dans ce dossier-là, le barreau a mis un comité de travail sur la question, mais le problème de l'accès à la justice, je vous dirais, M. Arcand, c'est que c'est pas une priorité politique, puis c'est pas une priorité sociale. Tu sais, pendant les campagnes électorales, c'est pas les questions d'accès à la justice là, qui font sortir les gens dans la rue. Puis un autre dossier, là, c'est celui des tarifs d'aide juridique. Les avocats, en ce moment, qui prennent des dossiers d'aide juridique, il y en a qui sont payés moins que le salaire minimum. C'est complètement absurde que l'État mette pas plus de ressources là-dedans. Sauf qu'il y a tellement peu de personnes qui s'en soucient que même s'il y a des comité de travail au barreau, ben c'est des dossiers qui évoluent là, tellement, tellement lentement. Puis moi, c'est ça qui me préoccupe au final, c'est que la population n'est pas suffisamment renseignée de l'impact de l'accès à la justice sur son quotidien. Puis c'est pour ça que des documentaires comme celui de M. Craig sont essentiels pour mettre en lumière ce que nous, on voit chez Juripop au quotidien, puis l'impact que ça a là, dans la vie de M. et Mme Tout-le-Monde de ne pas pouvoir faire valoir ses droits.
Non, mais c'est clair. Puis c'est pour ça qu'on en parle ce matin, que ce soit en droit familial, de violence conjugale. Je sais que vous avez souvent abordé la question d'accompagner des victimes dans tout ça qui n'ont pas de recours, qui n'ont pas de moyens, qui ne savent pas trop, puis pour qui le système peut être un petit peu stressant en plus. Et donc, c'est tous les mercredis au mois de mars que vous allez faire ça, et c'est entre midi et 18h, exact?
Oui, c'est ça. Okay. Puis ça, c'est les consultations juridiques par téléphone. Puis j'invite vraiment tout le monde à aller sur le site de Juripop pour regarder. On a près de 150 activités, là, donc plus que 4 activités par jour pendant tout le mois de mars aux quatre coins du Québec où les gens peuvent parler à des avocats, parler avec des notaires gratuitement. Puis pour la première fois cette année, on sort de Montréal. On va à Sherbrooke, à Drummondville, à Chicoutimi pour donner des consultations puis des conférences juridiques. Fait que vraiment, il y a des activités pour tous les goûts. On fait ça avec la Chambre des notaires puis avec des dizaines d'organismes d'accès à la justice partout au Québec. Donc, vraiment, ça foisonne là, d'options pour améliorer l'accès à la justice au Québec.
Merci, Maître Gagnon. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Maître Sophie Gagnon est la directrice générale de Juripop.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcan. Les grandes entrevues de la semaine.
Ce matin, on parle avec Sylvain Godreau, le député de Jonquière, qui a annoncé hier sa décision de ne pas solliciter un autre mandat, donc 15 ans de vie politique. Il est avec nous ce matin. Monsieur Godreau, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, parlez-moi en gros des raisons qui vous amènent à dire finalement, pas de nouveau mandat, j'ai donné et je vais faire autre chose.
Ben, vous venez quasiment de l'exprimer. vous savez, il y a une expression qu'on connaît bien au Québec, c'est « j'ai fait le tour ». Et moi, quand je regarde en 15 ans là, à l'Assemblée nationale, il y a trois fonctions que j'ai pas occupées. Là, leader parlementaire, président de l'Assemblée nationale et premier ministre. J'ai été chef de l'opposition officielle, j'ai été ministre, j'ai été député, c'est toujours ce qui m'a rendu le plus fier. J'ai été whip, président de commission, etc. Donc, il y a ce côté-là et à un moment donné, ça, la vie quotidienne politique après 15 ans me pèse un peu. Alors, je pense que aussi il y a une réflexion personnelle à faire. J'aurai bientôt 52 ans. Si je veux faire d'autres choses dans ma vie, c'est peut-être le bon moment de le faire avec la force, l'expérience que j'ai à ce stade-ci.
Regardons d'autres aspects. Par exemple, votre défaite dans la course à la direction. Est-ce que ça vous a écorché? Certains disent que, je ne dirais pas que vous êtes plus le même depuis, mais que ça a peut-être éteint un peu la flamme.
Oui, c'est évident. Je ne peux pas faire une course au leadership sans être déçu si je perds. Alors, je voulais gagner. Je vous dirais que ma réflexion sur la suite s'est entamée vraiment à partir de ce moment-là. Et quand je vous disais tout à l'heure que j'avais fait le tour, ben justement, si j'avais été élu chef, ben là, ça aurait été un nouveau défi. J'aurais pas fait le tour parce que je voulais être chef du parti, aspirer à devenir premier ministre. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Alors, j'accepte le résultat. Je me suis rallié à Paul. On a appris à se connaître, à travailler ensemble. Paul Saint-Pierre Plamondon, évidemment. Et puis, voilà, j'ai fait une analyse qui fait en sorte que maintenant, je peux faire autre chose qui sera certainement toujours actif, je dirais, dans l'espace public.
Si je vous demande de mettre sur une échelle de 10 l'état de santé du Parti québécois, quelle note vous me donneriez?
Ah, ça, c'est la question qu'on n'aime pas, là.
je vous la pose pareil.
je sais. c'est embêtant pour moi de dire ça. Ça dépend aussi d'où on part, tu sais. C'est sûr que par rapport à l'époque où on était au gouvernement, ben là, on a baissé. Mais si je compare à 2018, ben je pense qu'on a monté parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a pris de la maturité dans son rôle de chef. Ceci étant dit, on ne peut pas faire abstraction du contexte. Tous les partis d'opposition, ça va pas bien. Donc, on est là-dedans aussi. Mais honnêtement, je sens que nous avons des militants très, très engagés et il y a une cause qui dépasse toutes celles qui sont portées par tous les partis, qui est celle de faire du Québec un pays. Et cette cause-là ne peut pas mourir. Donc, le parti qui la porte ne peut pas mourir non plus. Alors, c'est comme ça que je fais mon analyse. Mais il y a un côté de moi qui dit, je suis encore trop collé sur l'arbre là, pour voir l'ensemble de la forêt. Peut-être que dans quelques mois, j'aurai plus cette distance critique.
Je veux vous amener sur deux sujets. D'abord, toute la question environnementale. On a eu le rapport cette semaine sur les changements climatiques, le GIEC. Ouais. Bon, qui...
catastrophique encore.
Exactement. Et Louis-Gilles Francoeur publie un livre très intéressant qui s'appelle « La caution verte ». Et la question qu'il pose, puis vous avez fait partie d'un gouvernement, là, vous avez été ministre, là, le ministre de l'Environnement, il pèse pas lourd dans la balance face au ministre des Finances, de l'Économie, dans certains cas du premier ministre. Peu importe les partis, là, actuellement au Québec, est-ce qu'on peut conclure que le ministre de l'Environnement, c'est ce qu'on appelle, comme dit Louis-Gilles, une caution pour un beau discours, pour des objectifs qu'on n'atteint jamais?
Oui. La réponse facile et vite, c'est oui. Mais ce n'est pas de la faute du ministre de l'Environnement.
Non.
C'est que, présentement, l'enjeu climatique doit sortir de l'environnement. OK, ça a l'air drôle à dire, là, mais c'est ça. Le climat touche l'économie, touche les affaires municipales, touche la santé en premier lieu, touche les transports, touche l'ensemble des opérations de l'État, l'ensemble de la société. Puis on met tout ça sur le dos du ministre de l'Environnement. qui, lui, n'a pas un rapport de force qui est différent par rapport aux autres. Il a la même place autour de la table du Conseil des ministres avec un budget moins fort. Fait que quand il arrive et il dit à son collègue, admettons, de l'économie, que tel projet, ça n'a pas de bon sens parce que ça va venir augmenter nos GES, le ministre de l'économie, il va dire « T'es qui, toi, pour me dire quoi faire? » Alors que l'enjeu du climat dépasse celui de l'environnement. Alors moi, je plaide depuis longtemps, puis j'ai déposé un projet de loi en ce sens à l'Assemblée qui n'est pas adopté, malheureusement, mais je plaide depuis longtemps pour que ce soit le premier ministre qui s'investit de la cause climatique au plus haut sommet de l'État et qui donne l'ordre de marche et qui va faire les arbitrages et qui va avoir une vision transversale. L'enjeu climatique ne peut pas être traité en vase clos ou dans un silo comme les autres secteurs.
Autre volet, et on le voit encore dans la presse de ce matin, l'augmentation des messages haineux, des menaces de mort contre les élus. Je voyais encore hier une image avec le visage de François Legault, c'était une cible, puis à côté des références à John F. Kennedy. D'abord, comme parlementaire, il y a 15 ans, vous n'avez pas connu ça. Ça s'est évidemment amplifié avec les réseaux sociaux, ça s'est encore plus accéléré avec la pandémie. Vous pensez quoi de ce phénomène-là? Vous, avez-vous déjà reçu des menaces au point d'appeler la police?
Oui. Oui, à plusieurs reprises, où j'ai avisé la SQ. Et ces menaces-là, j'ai eu l'occasion de le dire hier dans ma conférence de presse, sont souvent plus stressantes pour les proches, pour la famille, que pour le député ou l'élu lui-même. Parce que nous, on fait la part des choses, on en reçoit aussi des positifs. Souvent, ce sont des marginaux dans le fond de leur sous-sol qui n'ont pas de voix, puis qui sont losers, puis qui leur façon de s'exprimer puis de se valoriser, c'est de le faire par des messages comme ça. En tout cas, moi, c'est ainsi que je rationalise les choses. Ceci étant, c'est pas plus acceptable. Donc, quand on a des messages violents, il faut les dénoncer. Mais c'est vrai que ça devient lourd à un moment donné. Moi, je pourrais vous raconter des épisodes là absolument... très lourde, et il faut dénoncer ça.
Écoutez, vous pensez à quoi quand vous me dites, c'est quoi, des messages à répétition, c'est quoi?
Oh oui, des messages à répétition, c'est mon hostie de tabarnak, on va te péter la tête, surveille-toi, des affaires comme ça. Là. Je m'excuse d'utiliser ce langage-là, mais je vous traduis intégralement. J'en ai parlé d'ailleurs, j'ai un petit encadré dans l'essai que j'ai publié là, l'automne dernier sur les changements climatiques. Je mets des extraits de ce type de messages que j'ai reçus.
C'est. À un moment donné, on manque de mots pour décrire ça, mais certains de vos collègues de l'Assemblée nationale me parlaient de messages, à l'égard des femmes, d'un mépris misogyne, des messages homophobes.
Tu dis. Vous savez que je suis homosexuel.
Absolument.
J'ai reçu ce type de messages homophobes. Mais je répète une chose, c'est très inquiétant et stressant pour les proches. Moi, mon conjoint s'est inquiété de ça, surveillait un petit peu la maison. C'est dur pour les proches, ce genre. T'sais, ma sœur qui me dit « Sylvain, t'es-tu correct? T'as reçu des messages haineux? » Parce que eux, ils ont une relation émotive avec l'élu. C'est sûr qu'ils veulent protéger la santé de la personne qu'ils aiment. Donc, c'est dur pour les proches.
M. Godreau, merci d'avoir été avec nous. Puis, au-delà des considérations partisanes, félicitations pour votre implication. 15 ans de politique, ces années-ci, il faut le dire, il faut le souligner.
Merci infiniment. Ça a toujours été un plaisir de vous parler. Puis j'espère qu'on aura l'occasion sous d'autres formes, avec d'autres fonctions.
Absolument. Merci. Bonne journée.
Merci,
à vous.
Au revoir.
Sylvain Godreau, député de Jonquière du Parti québécois, qui a décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Dans cette période trouble, on a besoin d'une fenêtre, disons, de paix un peu. Et on va aller ce matin vers la nature, parler avec Marthe Laverdière, qui publie « Jardiner avec Marthe », c'est le volume 3. Avec comme sous-titre « Collons-nous à la vie ». Elle est avec nous ce matin. Madame Laverdière, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va d'abord, vous?
Ah, ça va très bien, mon ami.
J'ai parcouru votre livre. D'abord, je veux vous entendre sur la période de pandémie.
Oui.
Pour vous, ça a été un vrai confinement, là. Vous avez arrêté les opérations. Vous avez arrêté de travailler pas mal.
Oui, moi, parce que, il faut me situer. Moi, je suis pas en ville, je suis dans un rang, dans une petite municipalité. Et comme je suis un producteur qui part, ses plants, ses graines, et suite, je jette pas fait. Le printemps se prévoit en août, septembre de l'année d'avant. Et comme on était toujours, bon, on va t'ouvrir, on n'ouvrira-tu pas, mais ça va se passer cette affaire-là, c'est dur de dire j'ai investi un gros montant sans savoir si je vais pouvoir le rentabiliser. Surtout à l'âge que j'étais. Donc, j'ai pris ça mollo, le temps de la pandémie. Et ça m'a permis, par exemple, de retrouver la jardinière qui est pas dans le commercial, moi tout seul, moi comme jardinière. Puis j'ai pu écrire ce livre-là que je pense qu'il est très bon.
OK. Mais alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Hein? C'est quoi le retour sur vous-même que vous avez fait?
Tu sais, quand tu as des serres commerciales, veux pas, tu vas aller vers le choix que les clients ont. Tu vas choisir des plantes qu'ils devraient aimer, ainsi de suite. Tu recherches les nouveautés, la mode là-dedans, tout ça. Tandis que quand tu jardines juste pour toi, tu repars dans un monde de bien-être, de souvenirs, de sens. C'est pour ça que je l'écris sur les cinq sens. Où est-ce que je me suis retrouvée enfin? Quelle plante que j'aimais, quelle odeur que j'aimais, c'est quoi que j'avais besoin, moi, Marthe Lavardière, pour être bien dans mon jardin. Et j'ai adoré ça.
Il y a plusieurs éléments dans le livre. Il y a les conseils horticoles, c'est sûr, oui. Là, mais vous insistez beaucoup, puis vous venez de le dire, là, sur les sens, c'est-à-dire quand ça sent le basilic, quand ça sent les foins, quand ça... vous touchez la terre. Pour vous, là, ce contact direct-là, là, c'est comme... un retour aux sources ou...
Oui, c'est un retour aux sources. Et je pense que on devrait tous jardiner avec nos sens. Je vais te donner un exemple. Moi, à un moment donné, j'avais une cliente. Toutes les ans, elle rentrait dans ça. La première chose qu'elle achetait, c'était un immense plant de basilic. Puis moi, je me disais, Monique, elle aime le basilic sans bon sens, ça n'a pas d'allure. Et à un moment donné, elle a eu le cancer et j'ai eu le privilège de l'accompagner jusqu'à la fin. Et à un moment donné, je lui ai dit, Monique, il va falloir que je t'amène un gros plant de basilic. T'aimes tellement manger du basilic. Elle dit, j'en mange pas, Marthe. Mais j'ai dit, pourquoi t'achètes toujours un gros plant de basilic? Elle dit, ça me fait du bien parce que ça me rappelle ma mère. Et c'est drôle, la dernière chose qu'elle a jardinée, c'était un seul plant de basilic sur sa petite table de patio. Mais ça lui faisait excessivement de bien. C'est pour ça que les sens, c'est si important dans le jardin. Tu sais, souvent, on va vers des jardins qui ressemblent au jardin du voisin. On suit un peu ce que, dans les revues, on voit, ainsi de suite. Et c'est des jardins où est-ce que les gens ne se retrouvent pas. C'est des jardins, à un moment donné, qui deviennent négligés parce que c'est pas des jardins qui ont été créés par le jardinier. C'est des jardins commerciaux. Mais quand tu es dans un jardin qui a été créé par toi, avec tes souvenirs, avec tes goûts, avec tous tes sens, c'est un jardin qui va perdurer.
Vous en parlez dans les... mais dites ça à mes auditeurs et mes auditrices ce matin. Là, les odeurs ou les plantes ou les parfums qui ont meublé votre enfance, votre adolescence, puis que vous retrouvez, puis pour qui c'est bien important, là, pour...
oui.
Donnez-moi des exemples de ça.
Je vais te donner un exemple. Moi, en fait, je dis toujours aux clients... essaye pas de trouver la plante que les autres n'auront pas, à moins que tu sois réellement un maniaque, là. Ferme tes yeux, marche tranquillement, sens les odeurs, puis va vers ce que ton corps va t'attirer. Puis c'est toujours la plante qu'on a besoin. Tout le temps, tout le temps, tout
puis
le temps.
Puis vous, c'est à quoi?
Moi, je vais te dire, j'ai un besoin très, très fort d'odeur de marguerite et d'odeur de rose. Parce que, puis j'en parle dans mon livre, j'ai tombé orpheline de mère à 2 ans. Et, tu sais, à 2 ans, t'as pas de souvenirs maternels. Pour moi, ma mère, c'était réellement comme rien qu'une photo, si tu veux. Elle n'avait pas de dimension, tu sais. Et à un moment donné, on avait un vieux rosier dans la cour chez nous. Et mon père disait tout le temps, que ça, c'est un rosier que ta mère, elle a planté. Et quand ce rosier-là fleurissait, je me collais le nez dans cette rose-là parce que dans ma tête d'enfant, c'était l'odeur de ma mère. Et à un moment donné, bon, je me suis mariée, je suis partie de la maison, le rosier est mort et je voulais tellement retrouver ce rosier-là sur le marché. Et un jour, je l'ai retrouvé et c'est le rosier de Malmaison. Et là, c'est sûr que je l'ai ici en 3-4 rosiers. Mais ce rosier-là est important pour moi. C'est pas une rose excessivement belle, mais elle me rappelle ma mère. J'en ai besoin. C'est en dedans de moi. C'est, ça fait partie de moi. C'est ça, jardiner avec ses sens. C'est d'aller chercher des choses, pas nécessairement qui éblouissent le voisin, des choses qui nous font du bien à l'âme, qui nous font du bien en dedans.
Il y a beaucoup d'humour, on vous connaît maintenant, là. Il y a beaucoup d'humour dans votre livre, puis il y a beaucoup, il y a des dessins, puis il y a une phrase, là, puis je vais la citer, puis c'est peut-être pas tout à fait ça, là. Mais c'est quelqu'un de votre famille, je pense que c'est votre père qui disait « Tu peux me dire que ma femme est laide, mais pas mes tomates.
» Oui, je vais dire, les tomates au Québec, c'est une vraie maladie. Je ne sais pas pourquoi. Ça, tout le monde, vrai. La première affaire que tu veux planter quand tu commences, c'est des tomates. Puis tu veux donc avoir mangé tes propres tomates, puis ci, puis ça. Et là, tu vois, là, le monde capote. Tu sais quoi ça prend pour avoir des belles tomates devant? Et dans le livre, je marque réellement les problèmes que les tomates ont, pourquoi, et avoir des choses comme de la cendre pour pas avoir le mot dit tache apicale, tu sais, qu'on appelle le cul noir, là, la tache noire en dessous de la tomate. La tomate, c'est réellement, je pense que c'est la plante des Québécois qui aiment le plus. Ça c'est sûr. Tout le monde veut des tomates. Je ne sais pas pourquoi. Là, on est en manque. Là.
Puis les changements climatiques, vous en parlez dans le livre aussi, parce que, comme tout le monde, vous voyez les effets de ça.
Oui, oui. Et je trouve désolant de voir comment les gens sont pour sauver la planète, en parole, mais souvent, dans leurs gestes, ils suivent pas. À un moment donné, je me rappelle d'avoir fait une conférence, puis là, il y a une madame qui se lève, puis elle parlait contre un produit qui est un désherbant, je nommerai pas le nom, là, pour la compagnie. Et puis là, puis il faudrait demander au gouvernement qu'il arrête ça, puis c'est ci, puis c'est ça, puis elle était debout, puis là, tout le monde était pour elle. Puis à un moment donné, j'ai dit, arrêtez ça. C'est bien plus simple que ça. Arrêtez de l'acheter. Si vous l'achetez plus, ils n'en vendront plus. Ils veulent juste faire de l'argent. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de dire c'est aux voisins, c'est au gouvernement à faire le premier geste pour la sauver, la planète. Il faut que je le fasse moi. Mais il faut que j'assume ce que ça entraîne de le faire. Il faut être beaucoup plus résilient avec les insectes. Il faut être beaucoup plus dans l'acceptation quand on jardine. Mais si on n'est pas prêt à aller là, si on veut avoir le jardin comme dans la revue, pas une mauvaise herbe, pas un trou sur une feuille, oublie ça, là. C'est pas ça, la nature. La nature, c'est qu'on est en compagnie avec des insectes, avec des animaux, avec des maladies, avec des micro-organismes, puis il faut vivre avec ça. Il faut accepter ça.
C'est
impossible.
La pensée du jour. Merci beaucoup, Mme Laverdière.
Ça me fait plaisir.
À bientôt.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.